Eh bien, on s'est dit, voilà, on regarde d'abord l'ensemble des albums de Hergé, de Tintin, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de choses sur lesquelles jamais personne ne travaillait. Par exemple, les images de début dans tous les albums, personne ne parle jamais de ça. Les images, généralement, où Tintin est là, il marche. Et le hasard survient de quelque chose de tout à fait banal. Il y a un événement, par exemple, Milou se coince la gueule dans une poubelle, hein, au début du Crabe aux pinces d'or, et voilà, il y a toute une aventure qui démarre comme ça. Mais avant ça, il y a plusieurs images où rien ne se passe. Bon, ça c'est par exemple une chose qui nous a semblé important de montrer. Les images de début, bien entendu, les images de fin aussi, les images de fin d'album, mais les images de fin de page, donc la fameuse image de suspension dans le bas à droite qui doit faire, enfin jadis à l'époque, qui devait faire patienter le lecteur jusqu'à la semaine qui suivait. Prendre des images typiques aussi de rupture, de moments de rupture dans l'aventure, quand est-ce qu'une aventure passait d'un régime à un autre. Bon, ça c'était déjà, il fallait déjà sélectionner tout ça et le montrer. Travailler aussi sur, par exemple, des images de course. Montrer un peu quels étaient tous les régimes de course chez Hergé. Toutes les chutes, toutes les poursuites, toutes les ascensions, tous les évanouissements. Sélectionner les images de rêve, donc où quelqu'un rêve dans Tintin. Des images de folie, des images de drogue ou de perception extrasensorielle. Voir un peu ce qu'étaient les images d'animaux, vous voyez. Mais tout ça, donc c'était des images particulières, disons, dans les circuits de Hergé, mais qui ne voulaient jamais dire quelque chose. On n'avait jamais de message à apporter à ce sujet. On voulait simplement sélectionner des images que d'habitude les gens ne regardent pas, des images qui font partie du scénario, mais les détacher de leur scénario, qui ne sont pas le scénario en elles-mêmes. Donc il n'était pas question de raconter une histoire, loin de là, mais de sélectionner des images particulières à travers des pages, à travers des albums, et trouver une espèce de dénominateur commun à tout ça. Donc ad hoc qui court, une série de ad hoc qui court, à côté d'une série de Dupont qui court, à côté d'une série de Tintin qui court. Tout d'un coup, tous ces gens qui courent se retrouvent, par la magie, évidemment, l'audiovisuel sur un quai, et on peut aborder autre chose. Par exemple, les objets techniques. Chose aussi qu'on ne relève jamais chez Tintin. Voir un peu ce qu'étaient toutes les sortes de voitures, les fusées, bon, des choses comme ça. Certaines autres images nous paraissaient intéressantes aussi, tout ce qui était les messages, par exemple, les messages codés qu'il fallait déchiffrer, tout ce qui était relatif à la communication. Là, évidemment, on avait lu Michel Serres, hein, tout ce qui était les téléphones, les messages, les bouts de papier, toutes ces choses-là. Voir aussi ce qu'étaient les grandes cultures chez Hergé, et disons dans l'audiovisuel, les mettre côte à côte, ce qu'on ne fait jamais les autres fois, toujours sans avoir de théorie à ce sujet. Voir aussi ce qu'étaient les grands lieux d'élection chez Hergé, faire une sélection des îles, des châteaux, des montagnes, mais d'autres choses aussi, tout ce qui était relatif au feu, donc les grands éléments, le feu, tout ce qui se passait dans l'air, tout ce qui se passait sous terre, etc. Les déserts, hein. Donc il fallait relever des types de nature chez Hergé, des types de paysages, et mettre tout ça ensemble. Pas grand chose, disons, c'est un tracé qui est tellement impersonnel, tellement dénotatif, et disons qu'il ne veut rien dire. Non, il y a autre chose qui m'a frappé, c'est de voir comment Hergé était un monsieur qui se prêtait à merveille au cadrage, et comment, avec une facilité vraiment déconcertante, bon, il suffit de voir des exemples, je peux juxtaposer une image de fenêtre à côté d'une image de porte et à côté d'un estor. Pourquoi ? Bon, là, peut-être qu'il faut aborder un peu l'esthétique de Hergé, mais c'est quelque chose qui m'a frappé, parce que ce n'est pas possible avec beaucoup d'autres peintres, et ce n'est pas possible non plus avec beaucoup d'autres dessinateurs de bandes dessinées. Alors, sans doute que les grandes plages de couleurs, les grandes plages de fond dans lesquelles, ou les grandes plages de paysages dans lesquelles font se mouvoir les personnages, comme tout ça est une écriture impersonnelle, c'est-à-dire anonyme, une écriture qui prévaut à travers les albums, je dirais presque une écriture sans évolution, à travers les albums et à travers le temps, qui avait moyen de couper à travers ça et de jouer un petit Frankenstein et de refaire quelque chose de nouveau, mais sans en voir la couture. Ça me paraît très intéressant chez Hergé, de voir qu'on peut couper, qu'on peut ressouder, mais la couture ne se voit pas. Alors, probablement que c'est dû à cette impersonnalité du trait, mais aussi à un emploi très judicieux des couleurs. Un bleu de nuit peut très bien fonctionner avec un bleu de jour. Une rue, un bleu, un mur de rue bleu peut très bien fonctionner avec un ciel devant lequel défile un train. Donc là, il faudrait peut-être regarder de plus près, voir comment va fonctionner la couleur chez Hergé. Un autre exemple, c'est de voir comment le jaune d'une fenêtre illuminée peut très bien fonctionner avec le jaune du pull Tintin et par conséquent donner une unité à travers deux images hétéroclites, et comment le mur blanc de la porte qui s'ouvre peut fonctionner avec le gilet blanc de Nestor. Tu vois, là, à travers l'hétéroclite très grand de trois images, donc c'est un audiovisuel en trois images, hein, en trois machines, comme ça, il y a des choses qui sont semblables tout le temps, à tous les degrés de l'image.
Parler de impersonnalité du trait d'Hergé, il me semble au contraire que dès qu'on voit un dessin d'Hergé, on reconnaît la personnalité de son auteur.
Oui, mais de la même façon peut-être qu'un monsieur comme Van Eyck jadis ne cherchait pas à faire de l'écriture, ne cherchait pas à montrer qu'il était un brillant peintre, si je parle de Van Eyck, comme Hergé, je pense, ne veut pas. Montrer qu'il est un brillant dessinateur. Je crois qu'il veut se contenter de prendre note de façon très, très humble, finalement. Mais son souci premier n'est pas d'affirmer sa patte, n'est pas de montrer « moi, je suis un dessinateur brillant, je suis un auteur qui est plein de qualité, regardez un peu la facilité avec laquelle je suis capable de faire ceci ou capable de faire ça ». Non, je pense que ça n'existe pas chez Hergé, comme ça n'existait pas à l'époque chez Van Eyck. Alors, de la même façon que Van Eyck peignait les choses peut-être comme un miroir et voulait faire un miroir du monde, ça n'empêche pas du tout que ce refus expressionniste du sujet peignant ou du sujet dessinant ne fasse une œuvre qui est strictement personnelle. Un Van Eyck se reconnaît, même si Van Eyck n'a jamais mis son moi, son je, sa main en avant. Tout le travail de peinture de Van Eyck est un travail qui élimine la main, qui élimine la virtuosité. Et Hergé aussi. Alors, est-ce que Hergé serait, entre guillemets, ou serait d'une certaine façon le Van Eyck de notre époque? Peut-être, c'est peut-être chercher beaucoup trop loin et certainement on va crier au scandale, mais enfin, ça fait rien, on a l'habitude. Mais peut-être qu'il y a là-dedans une attitude commune, qui est une attitude de refus de se mettre en avant. C'est peut-être plus important qu'on ne croit. A contrario, j'ai beaucoup travaillé Franquin de ces jours-ci, de ces derniers mois. Il faut voir comment Franquin est quelqu'un qui insiste énormément sur l'écriture et comment il y a des tempos différents d'écriture chez Franquin. Et comment il n'y a aucun risque que l'on confonde l'écriture du Franquin de Spirou et Fantasio avec l'écriture de Franquin dans Gaston et même, et surtout, l'écriture de Franquin dans Les Idées Noires. Il y a là des échauffements, il y a là des températures différentes dans les écritures. Chez Hergé, il n'y a pas de température. Il y a une constante comme ça. Je ne dis pas que cette constante, c'est zéro. Hein. Il y a peut-être un degré, il y a certainement un degré de chaleur dans cette écriture, mais c'est constant. Du début jusqu'à la fin, de Tintin au Congo jusqu'au dernier, jusqu'au Picaro, c'est constant, ou à peu près. Et c'est ce qui nous a permis de juxtaposer trois images d'albums différents, d'époques différentes, et que quand même, ça fonctionne. Ce qui est peut-être pas le cas chez Franquin. Bon.
Hergé a créé un style de dessin, un style de narration qui a été suivi par d'autres dessinateurs constituant ce qu'on a appelé l'école d'Hergé. Qu'est-ce que les auteurs de l'école d'Hergé ont retenu du professeur Hergé, Pierre Sterck?
Mais moi, je ne sais pas. Je ne connais pas assez bien les jeunes dessinateurs. François va dire ça mieux que moi.
Les premiers.
Mais les premiers n'étaient pas des disciples. C'était des gens qui apparaissaient dans la même période, qui... Bon, et qui ont même quelquefois collaboré avec lui d'égal à égal, comme Jacobs, hein, qui, mm-hmm. ils ont essayé de faire une histoire ensemble. Et je crois qu'à ce moment-là, chacun suivait des voies parallèles, que c'était un phénomène d'historicité. Alors, moi, je peux simplement dire que par rapport à Hergé, des gens comme Martin ou comme Jacobs font du très très bon travail, mais que les problèmes que j'ai essayé de cerner tout à l'heure en parlant de la ligne de contour et, mm-hmm. et de ce qu'elle mettait en cause... Que ceux-là ne sont pas aussi économes que lui, en ce sens qu'ils doivent mettre plus de choses pour arriver à un résultat, quelquefois, à mon sens, hein, en tant que lecteur, un résultat moindre. Mm-hmm. Ils mettent plus d'ombre, plus d'épaisseur, plus de petits détails frémissants, comme ça, pour arriver à faire passer leur image. Alors qu'Hergé, lui, c'est le maître de la limitation, de l'élimination des parasites et finalement d'une espèce d'image pure où le contour fonctionne à fond sur tous les régimes. Donc moi je dirais, dans un premier temps, il y a des gens qui travaillent dans son ambiance et qui font du travail honorable, quoique pour moi il y a un maître, c'est tout ce que j'ai à dire.
Alors François, tu pourrais peut-être parler des successeurs et aboutir à cette évolution finale actuellement en 1982, qu'est la ligne claire, cette dernière mode Hergé.
Oui, en fait, bon, après le club en dessiné, dans les années 70, est un petit peu explosé dans tous les sens, où on a fait beaucoup d'expériences, on a un peu voulu mettre en question la planche, la case, on l'a mis sans contour, on a essayé d'un petit peu de tous les côtés de faire des tentatives. Il y a des gens qui ont voulu reprendre... la rigueur d'Hergé, comme disait Pierre, c'est pas évident parce que d'ailleurs l'éventuelle facilité qu'on pourrait voir d'Hergé, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses qui sont passées par là et que bon, la simplification, la stylisation n'est pas évidente, mais ça n'empêche que s'il y a un maître à suivre, je crois que c'est bien celui-là parce que beaucoup de maîtres sont dangereux, je veux dire qu'ils ont trop de pratiques, trop de facilité, trop de style et qu'à les suivre, on aurait tendance à en oublier ce qui est sous-jacent, ce qui est important en définitive, et en garder la fascination du dessin, l'habileté du dessin. Or lui, comme il place les choses à un autre niveau, il me semble que c'est un personnage beaucoup plus important à suivre, beaucoup plus intéressant à prendre comme phare, je veux dire. Mmh. Alors, mais il y a des gens qui ont très très bien réussi ça, je veux dire, comme des gens comme Tardy, qui ont en fait grossi le trait. Si on voit un travail de Tardy, il a agrandi l'efficacité d'Hergé pour avoir un plus grand rendu, ou des gens comme Zwart qui ont par contre mis un autre fond et qui ont un peu perverti l'image d'Hergé, mais à un niveau quand même assez important, ou des gens comme Floch qui ont travaillé plus sur le récit, sur l'anecdote et sur le problème du roman policier. Je crois qu'il y a eu de très bonnes choses dans ce domaine-là qui ont fait du bien, je crois. Enfin, il me semble, à la bande dessinée. Un retour à une certaine rigueur aussi, une certaine précision. Mm-hmm. Mais non, je crois qu'il ne faut pas, se leurrer. Ça peut être aussi une facilité que de tomber dans... Parce que les codes sont tellement là, sont précis, ils existent, il y a une espèce de vocabulaire de code. Les utiliser tels quels sans y avoir en dessous des tripes, sans y avoir un très gros investissement, ça pourrait tomber dans une mascarade. Mais il y a des auteurs qui ont très bien réussi l'intégration du code Hergé, de tout ce que ça comportait.
Et nous allons entendre maintenant un dessinateur ligne claire, Alain Goffin, dessinateur du réseau Madou, qui était un livre sur scénario de François Rivière, album qui sortira en septembre, d'ailleurs chez Casterman. Alain Goffin va définir la ligne claire, et puis sa position par rapport à l'école d'Hergé, puis Tardy se situera par rapport à cette école.
D'abord, je ne peux le définir que par, si tu veux, un critère de qualité au départ, parce que pour moi, ligne claire n'est pas du tout synonyme de quelque chose de péjoratif au départ. Pour moi, c'est quelque chose... Si tu veux, pour moi, la ligne claire, c'est avant tout
un phénomène de clarté. Hein. Alors la clarté, c'est aussi bien au point de vue du scénario qu'au point de vue du graphisme. Alors pour moi, le graphisme, c'est un amour, si tu veux, que j'ai depuis ma plus tendre jeunesse. Et, par exemple, je suis, enfin, moi qui me prétends plus graphiste que dessinateur, j'ai toujours, par exemple, aimé des peintres dans la lignée, par exemple, d'Adami. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est qu'Adami. C'est un peintre qui peint uniquement par grands aplats de couleurs avec un trait cerné de noir. Et c'est quelque chose que j'adorais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'était vraiment mes amours, si tu veux, de graphiste avant même d'être un dessinateur aimant un autre dessinateur de bande dessinée. Alors, au départ, si tu veux, la ligne claire, pour moi, eh bien, cette espèce d'amour en fonction, et cet amour face à des gens qui utilisent la clarté dans le dessin. Ça, c'est pour moi la ligne claire, c'est la définition que je pourrais en faire. Si tu veux. Pour ce qui est de la narration, en général, elle doit être claire, elle aussi. Mais disons que pour ce qui est de la narration, si tu veux, le fait que le dessin soit tout ce qu'il y a de plus clean permet peut-être d'aller beaucoup plus loin dans la narration et de parfois peut-être affronter peut-être plus que, par exemple, le niveau école belge classique, c'est-à-dire Jacobs, Hergé ou d'autres dessinateurs, et permet parfois d'aller beaucoup plus loin dans les trames narratives. Et là, bon, ben, on arrivait au cinquième ou sixième degré, puisque, disons que, enfin, c'est un sixième degré, j'exagère dans les degrés, mais je veux dire que comme le dessin reste très très clair et très facile à voir, à comprendre, que les détails foisonnent, j'ai l'impression qu'on peut parfois aller plus loin dans le récit. Donc, il n'est pas évident que parce qu'on choisit absolument de travailler ou de dessiner dans l'esprit RG1, qu'il faut absolument se cantonner à un scénario très très clair et très précis. On peut, à mon avis, le dépasser beaucoup plus, parce qu'il y a un moment où le dessin, lui, est simplifié au maximum. Tandis que, par exemple, si on prend l'exemple contraire, si tu prends un dessinateur qui charge vraiment très fort ses dessins, et si là-dessus tu greffes un scénario où les dessins, où le scénario lui aussi est des plus compliqués, pour finir, je crois que le lecteur aura vraiment de grosses difficultés à s'accrocher à la bande dessinée qu'il est en train de découvrir.
Tantôt de degré, cinquième, sixième degré par rapport aux anciens maîtres, est-ce que tu crois que vous avez dépassé en tant que dessinateur ligne claire tous ces anciens maîtres de la bande dessinée?
Ah, écoute, moi, pour ce qui est de mon cas personnel, je travaille avec François Rivière, hein, qui, je ne sais pas s'il faut le présenter ou pas, mais enfin, disons que dans son premier album, Les Rendez-vous de Sévenneux, je crois que c'est un scénario qui allait vraiment très très loin, avec une mise en abîme du récit, chose qu'on ne trouvait que, disons, de façon beaucoup moins évidente chez Hergé. Bon, pour ce qui est du travail de François avec moi, au départ, François avait un projet qui était vraiment un projet avec une mise en abîme du récit par un récit dessiné par un dessinateur de bande dessinée dans mon histoire. Voilà l'histoire en résumé. Et puis, pour finir, moi, je me suis dit, oh, écoute, François, moi, je préférais qu'on garde les personnages peut-être pour d'autres histoires. Donc, revenons-en à une histoire plus terre-à-terre. Donc, revenons-en au premier degré. Je m'y sentirais beaucoup mieux. Il y a eu une réaction de Casterman qui aurait peut-être préféré qu'on mène à bout. Qu'on mène à bien, pardon, un récit peut-être plus élaboré et plus complexe, et peut-être avec des trames narratives beaucoup plus compliquées. Nous, enfin moi, j'ai pris le parti de faire une histoire peut-être plus simple dans un second temps. Et puis pour finir, bon, donc dans mon cas bien précis, j'estime ne certainement pas avoir dépassé, mais plutôt me plonger à fond dans le type de récit tel que pouvait le proposer Hergé ou d'autres grands dessinateurs.
Thank you.
1905, bon, tout d'abord, Hergé a bien dû voir un jour à gauche ou à droite un certain style épuré, parce que bon, dans toute création, il y a d'un côté les gens qui sont super nerveux et qui fouilleront et qui remettront du détail à l'infini, et puis à côté de ça, il y a des gens beaucoup plus sages, parce qu'il s'agit presque d'une sagesse et de l'esprit et de la main qui en arrive à ce qu'on ordonne au maximum son dessin. Et bon, ben, je crois que ce sont deux écoles de tempérament qui ont existé de tout temps. Par exemple, quand on voit les dessins de l'école chinoise, ce sont des gens qui sont très modérés, très ponctuels, et très ponctués, pardon, ponctuels aussi sans doute. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que si tu veux, ce sont des écoles de traits et des écoles de tempérament qui se ressentent dans l'art. Bon, ben, donc je dis que simplement Hergé a certainement dû trouver dans d'autres une espèce de sagesse, une espèce de clarté dans son dessin, et que bon, ben, les gens qui ont suivi Hergé ont sans doute adopté presque le tempérament, tout en le mettant eux aussi à leur propre tempérament. Je veux dire par là que, par exemple, Jacobs, s'il a été à un moment ou à un autre, s'il a pu être influencé, il a quand même retourné ça dans son univers à lui, qui était un univers théâtral, qu'Hergé avait peut-être moins. Hergé avait peut-être un univers beaucoup plus caricatural. Jacobs, lui, est retombé dans son créneau à lui, qui était le côté diabolique et le côté théâtral de son dessin. Bon, à ce moment-là, il y a eu une fois de plus une création. Donc, dire que ces gens ont suivi, ben oui, ils ont suivi comme Hergé a pu suivre un jour quelqu'un.
On relie en général à l'école d'Hergé des noms comme Jacobs, comme Jacques Martin, comme Bob de Moore. Est-ce que tu vois d'autres personnes qui pourraient se situer aussi dans cette école, mais qu'on ne nomme pas en général quand on parle de l'école d'Hergé?
Bah, tu sais... Oui, évidemment. Bon, par exemple, l'exemple qui me vient le premier à l'esprit, c'est par exemple Tardy, qui, bon, à prime abord, est tout à fait, est très éloigné d'Hergé. Et puis, pour finir, quand tu te plonges à fond dans le graphisme, c'est-à-dire que tu te dis, bien, comment ça fonctionne, et bien, là aussi, il y a de la ligne claire. C'est-à-dire qu'il y a de la ligne claire, avec, malgré tout, un souci presque pictural qui fait que Tardy regorge ou fait regorger ses dessins de tas de masses noires et qui les fait presque fonctionner comme des peintures ou comme des gravures. Mais au départ, si tu veux, Tardy est certainement un monsieur qui était certainement très influencé par Hergé, et dans le récit et dans la façon de dessiner.
De la bande dessinée belge en général, parce que j'ai été influencé par cette école-là, et j'ai été beaucoup plus influencé par Jacobs que par Hergé. Dans la mesure où il y a des points communs quand même entre le graphisme de Jacobs et de Hergé, disons que j'ai été influencé par les deux, mais plus par Jacobs quand même. Et je revendique cette influence de Jacobs, notamment au niveau de ce travail de repérage sur les lieux réels, etc. Quant au dessin de Hergé, ce que j'en retiens, c'est la lisibilité. Ce qui m'a toujours frappé, cette espèce de lisibilité de lecture. C'est absolument clair, il n'y a pas de confusion, le dessin est clair, on comprend parfaitement ce qui se passe, c'est extrêmement efficace. Ça, je l'ai retenu. Son graphisme, par lui-même, je ne sais pas si on en trouve des traces dans mon travail. On va certainement retrouver plus de traces de Jacobs que de Hergé.
Je crois que nous battons tous les records de retard aujourd'hui. Alors rapidement, Benoît Peters nous a annoncé la semaine passée le titre du prochain album de Tintin, qui serait d'après lui Les Faussaires, album qui devrait se situer dans les milieux de la peinture contemporaine. Alors, Pierre Terce, puisque ta rencontre avec Hergé s'est effectuée grâce à la peinture contemporaine, je voudrais que tu nous parles des rapports entre Hergé et la peinture contemporaine et les goûts d'Hergé en matière de peinture.
Et Hergé est plus qu'un amateur de peinture, c'est vraiment un connaisseur. C'est un phénomène très rare, je crois, dans le monde des dessinateurs de bandes dessinées, où j'en ai rencontré beaucoup, pour ne pas dire presque tous, qui sont même allergiques à la peinture contemporaine. Quand on demande à Jacobs quels sont vos peintres, il répond Dürer et Bruegel. Mais quand on dit à Hergé quels sont vos peintres, il répondra Holbein, parce qu'il a une reproduction d'un Holbein dans son bureau depuis 25 ans. Mais il dira aussi Miro, dont il avait aussi une reproduction dans son bureau. Et puis il ajoutera Liechtenstein, David Hockney, Andy Warhol, dont il a des œuvres dans sa maison. Donc là, il y a une différence considérable entre lui et les autres dessinateurs. Et ça doit tenir sans doute au fait qu'il a atteint dans le domaine du dessin une telle intensité ou une telle profondeur qu'il a rejoint la peinture. En tout cas, il est venu à la peinture. C'est lui qui est venu dans les galeries d'art dans les années 50 et qui a commencé à acheter d'abord des expressionnistes flamands comme Permec et tout ça. Enfin, il faut tous passer par là. Et puis la peinture abstraite. Fontana, Polyakov et tout ça dans les bonnes années, hein, dans le temps où ça se montrait, ce sont les bonnes années. Après, il y a les années des ventes publiques, c'est pas la même chose. Et alors la peinture abstraite a même posé un problème. Il a été fasciné par ce genre de choses et il a même essayé d'en faire. Et ça a duré, je crois, un an ou deux, une petite période comme ça, où il a fait des tableaux et puis il s'est rendu compte que ça ne marchait pas très fort et il a arrêté. Il a été jusqu'à essayer d'en faire. Mm-hmm. Et enfin, dans une troisième période de sa carrière de collectionneur, et il a eu, comme tout le monde, le choc de la peinture américaine dans les années 60, et il a suivi ça de très très près, non seulement dans le pop art, mais dans l'école minimale, et dans les choses beaucoup plus avant-garde, comme Denis Oppenheim et tout ça, oui, enfin des choses que le grand public ne connaît pas encore, mais qui sont les choses les plus intéressantes que la peinture américaine ait produite depuis 10 ans. Je peux même dire qu'il était tellement amateur de peinture et connaisseur de peinture qu'il a fait des voyages en ma compagnie jusqu'à Amsterdam ou Paris pour rencontrer les artistes et pour discuter avec eux et pour voir leurs ateliers.
Mmh. Bien, merci Pierre Sterckx, merci François Sketen et merci Thierry Smolderen. Nous allons entendre maintenant comme mot de la fin Henri Van Leer, que nous avions entendu abondamment la semaine passée. C'est un professeur à l'UCL.
Ce qu'Hergé représente pour vous. Je crois qu'une chose qui est assez intéressante, me semble-t-il, à dire, c'est à quel point, d'une certaine manière, Hergé n'existe pas. Étant donné que, bon, il y a Tintin. Alors, il y a Hergé, qui est un phénomène, j'allais dire, presque complètement différent. Et c'est pour ça que j'ai, à la fin de l'article, en fin de compte, je dis, c'est lui-même a dit des choses comme ça, ou il a dessiné des choses comme ça. C'est pas Hergé qui dessine Tintin. C'est véritablement Tintin qui existe, c'est un certain adolescent qui existe, qui fait sa collecte du monde et qui a besoin, j'allais dire, d'un secrétaire. Il a besoin d'un secrétaire, il a besoin d'un homme prodigieusement modeste, c'est-à-dire d'un homme d'une objectivité colossale. C'est la même chose, la modestie et l'objectivité, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui disparaît complètement au profit des objets qui sont là. Et d'une certaine façon, connaître alors l'homme Hergé, et ça peut arriver très très souvent pour beaucoup de grands auteurs et de grands créateurs, il y a un homme Hergé, alors toute la question de savoir est-ce qu'il y a un rapport entre ça et justement l'œuvre, et me semble-t-il, dans ce cas-ci, c'est vraiment un rapport qui est un rapport de d'effacement. Hergé n'est même pas là avec son nom de famille, il est vraiment, c'est simplement ses initiales, et il est cette espèce de fidèle secrétaire qui va essayer de rendre ça. Mais alors, bon, il y a un homme Hergé que j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de fois à un moment, et c'était parce que, disons, je crois que ça doit être à peu près en 66, 67, 68, comme ça jusqu'à 70, l'art contemporain était certainement un des endroits où l'être humain, comme ça en général, réfléchissait le plus sur ce qu'il était, sur ce qu'était son environnement, sur ce que c'était que la mort, la vie et tout le reste.